Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Premier week-end de l'année 2020, l'occasion de vous présenter tous mes voeux et de vous remercier pour votre fidélité à Géopolitique. Regard sur l'art contemporain à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle. Aude de Kéros est notre invitée. Aude de Kéros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, graveur, peintre et essayiste. Vous publiez régulièrement des articles de décryptage sur l'art contemporain et sur l'art tout court. Ma première question tourne autour du titre de votre ouvrage, Art contemporain, manipulation et géopolitique. De quoi est-il question ?
Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses sous ce titre. Le fait d'abord du mot art contemporain est déjà une manipulation en soi. On pourrait peut-être commencer par là. C'est que le mot art et le mot contemporain ont été détournés complètement. Je dirais que le mot apparaît d'une façon constante à partir de 1975 à peu près. Et il apparaît au moment où on peut dire que l'Amérique a gagné la guerre froide culturelle. C'est le début de la victoire, si vous voulez. Alors, pourquoi ce mot en soi est déjà une manipulation ? Tout simplement parce que le mot « art » est ici uniquement considéré sous son angle conceptuel.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce n'est pas l'esthétique, la forme accomplie qui porte le sens. C'est, disons, le discours qui va prendre des formes, mais la forme est secondaire, elle ne fait pas l'objet du jugement. Ce qui fait l'objet du jugement, c'est le concept, le contenu du concept. Et en général, ce concept, il est là pour détourner ce qui existe déjà, le contexte, l'histoire, l'objet qui est détourné, la pensée, enfin, toutes sortes de possibilités de détournement dans un but critique. Et c'est ce détournement même qui fait l'œuvre d'art. Bon, par ailleurs, l'art conceptuel a une autre vertu qui va être très utile pour, disons, sa domination qui va suivre. C'est qu'il peut être sériel.
C'est-à-dire fabriqué en série.
Fabriqué en série, sous différents formats, de différentes façons, etc. Et également, il doit même être fabriqué de façon industrielle. C'est-à-dire que celui qui est le créateur, qui crée le concept, ne le fabrique pas. Il le fait faire, voilà. Donc, vous pouvez entrer là dans une... On passe à l'objet industriel, évidemment. Mmh. On passe à l'objet qui n'est plus un objet lié à une identité, puisqu'il est détourné, puisqu'il est... Le sens est cassé, il est manipulé. Donc, il y a déjà une rupture avec toute l'histoire d'avant. Et aussi toute identité, puisque l'histoire porte l'identité. Et l'œuvre d'art, généralement, même si elle est universelle, elle sort d'une identité. Elle ne sort pas de nulle part. Alors, c'est évidemment un outil qui devient très politique. Et puis, il peut aussi devenir, et c'est ce qui va lui permettre son immense succès, il peut même gagner sa vie en devenant, grâce à cela, un objet financier, et monétaire, les deux choses étant légèrement différentes. Il a une valeur faciale.
Alors, quand vous parlez d'outils très politiques, Aude de Kéros, vous pensez à quelque chose en particulier. C'est tout le travail de la CIA qui a été très active dans ce développement du soft power américain.
Alors, le soft power est un terme qui arrive en 91, quand la guerre froide est finie, culturelle. Et qui va remplacer, si on peut dire. Mais peut-être regardons un peu ce qui s'est passé avant. La politisation de l'art, l'instrumentalisation, je dirais, de l'art, bon, elle a toujours existé, mais à ce point et d'une façon aussi politique, jamais. C'est-à-dire qu'il a une véritable nouveauté après 1914. Les intellectuels et les artistes sont devenus une source de pouvoir important pour, disons, faire la révolution. Et donc, la conquête de ces intellectuels et de ces artistes, le contrôle de ces personnes, est important pour le pouvoir politique. Et les premiers à inventer des systèmes de manipulation, ce sont les soviétiques, qui vont en faire déjà véritablement un moyen d'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours basé sur le double langage et le mensonge. C'est-à-dire que ça ne sert pas à ce que l'on dit. C'est présenté d'une façon et ça sert à autre chose. Et les Américains ont été les premiers manipulés, comme les Européens d'ailleurs, entre les deux guerres. On connaît maintenant l'histoire presque jour par jour de ces personnages incroyables qui faisaient de l'influence dans les domaines des arts.
Les Américains ont très bien su manipuler de leur côté également. Ça a été un jeu de...
Mais après la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, ils n'ont pas bien compris. Et ce n'est qu'après 1947, fort bien conseillé par beaucoup de personnes qui connaissaient, pour avoir vécu en Europe et en Europe de l'Est, avant la guerre, et qui sont partis, qui ont fui l'Europe au moment des nazis, qui ont expliqué un peu comment la complication, disons, du monde occidental sur le plan culturel. Et donc, ils ont bien vu en 47 qu'on s'est aperçu d'abord que la guerre n'était pas finie. Elle était même mondiale et d'une violence extrême, surtout en Corée, au Japon, enfin la guerre n'était vraiment pas terminée. Et il y avait tous les pays de l'Est qui tombaient les uns après les autres dans l'escarcelle soviétique. Et dans cette ambiance terrible, ils ont vu que les intellectuels et les artistes, même en Europe de l'Ouest, ne leur étaient pas soumis ni favorables. Donc, s'ils ne gagnaient pas cette guerre froide culturelle, ils ne gagneraient pas la guerre. Ça a été une évidence. Et donc, ils ont mis tous les moyens pour la gagner. Et ils l'ont gagnée avec ruse. C'est-à-dire qu'ils ont fait très attention que les Occidentaux, qui ont une longue culture, qui sont très fins dans toutes ces questions de la pensée de la culture, ne s'aperçoivent pas qu'ils étaient manipulés par les Américains. Alors, ça a été le cas dans le domaine du cinéma, et ils ont fait ça d'une façon très soft, très douce, ou cachée par les fondations, cachée par toutes sortes d'intermédiaires qui faisaient qu'on ne voyait pas d'où venait l'influence. Ça a été le cas pour les revues philosophiques, les revues savantes, etc., mais aussi les revues politiques, pour la presse. La presse a été très vite bien traitée et tenue en main sans qu'on s'en aperçoive assez tôt. Et si vous voulez, les arts plastiques ont été aussi un des domaines dans lesquels ils ont agi. Mais la première politique qu'ils ont eue, c'est d'essayer de créer une avant-garde qui soit l'opposé du réalisme socialiste, qui paraissent très modernes et dont on puisse dire qu'il y avait une modernité américaine à l'époque indépassable. Et ils ont choisi l'expressionnisme abstrait, en détournant aussi tout le milieu trotskiste qui était là, très installé déjà dans le monde artistique, souvent ayant fui tous ces groupuscules qui avaient eu un immense rôle au moment de la Révolution en 1917, qui avaient même duré jusqu'à la fin des années 20, puisque Staline va dissoudre une trentaine de groupuscules allant dans des esthétiques soit conceptuelles, soit constructivistes. Enfin bref, il y a une infinité de mouvements. Les soviétiques appelaient ça le formalisme. Donc toutes ces personnes qui commençaient à les déranger parce qu'il y avait quand même une certaine liberté et beaucoup d'inventions aussi. Et on les a un peu exportés pour qu'ils soient agents d'influence ailleurs qu'en Union soviétique. Beaucoup ont été en Allemagne, ils se sont infiltrés dans le Bauhaus, d'autres sont partis en Amérique fondant un collège, un Mountain College, qui a rassemblé un peu toute cette pensée conceptuelle, révolutionnaire, artistique, créative, et qu'ils ont essayé de récupérer pour, en fait, mettre en face de l'Europe néo-communiste ou communiste, le gauchisme rejeté par le système soviétique. Donc, c'était un moyen de séparer les gauchistes des communistes ou de les opposer. D'ailleurs, ça a été un peu ce qui s'est passé en mai 68, les gauchistes contre les communistes. Mais les Américains ont joué ça dès les années 50, et dans le domaine de tout ce qui est art plastique, ils ont vu que, comme l'art abstrait existait déjà depuis avant 1914, donc quand ils arrivent avec leur expressionnisme abstrait, ça n'impressionne strictement personne.
Ils n'apportent rien de plus. Alors, pour en revenir à la question de l'art conceptuel que vous évoquiez en début d'émission, Aude de Kéros, finalement, cette idée qui a été de détourner ce qui existait jusqu'alors, ça a été, ils ont fait table rase d'une certaine manière, voilà, et ça a été une façon pour les Américains d'imposer et de ne pas de couper finalement les racines afin de pouvoir s'imposer de manière plus globale, plus générale, même si tout ça s'est passé de façon assez progressive. C'est cela qu'il faut comprendre.
D'autant plus que donc ce passage, ils ont changé de fusil d'épaule et ils sont passés au conceptualisme en 1960. Et ils ont véritablement pris cette arme du conceptualisme qui était une des avant-gardes possibles. Et ils ont choisi celle-là.
Alors, quelques exemples de ce conceptualisme afin que nos auditeurs puissent avoir une image ou deux en tête, ou de Kairos.
Une image de ce conceptualisme. Oh, ben vous avez la banane scotchée, qui est un exemple qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, le discours, on peut mettre comme discours, ben c'est une contestation de la fin de l'monde, pourquoi pas.
La fin est faillée.
Oui, par exemple, parce qu'il y a toujours un discours moral dans le conceptualisme. C'est une provocation, 120 000 euros, une banane scotchée qu'un artiste va manger au passage. Tout d'un coup, c'est la stupéfaction, c'est on perd tous les repères, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est là où beaucoup de gens n'ont pas encore compris qu'on n'achète pas l'objet, on achète le concept. Et que ce concept de la banane, il existe en 5 exemplaires au départ. Donc vous avez l'exemplaire qui est vendu 120 000 euros, qui est mangé, et que le propriétaire peut réinstaller où il veut, quand il veut, il achète une banane. Mais en dehors de ça, il y a cette partie visible de cet achat de 120 000 euros. Et puis après, il y a tout ce que l'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a 2 exemplaires qui sont pris par des musées, et 2 autres exemplaires qui ont été achetés également. On ne connaît pas le prix. Et il semblerait que c'est déjà plusieurs fois les exemplaires ont été revendus. Alors, vous voyez, dans l'art, ce produit si fascinant, à la fois il fascine par un discours moral, ensuite par une sorte de scandale qui choque tout le monde, et puis ensuite, en dessous, il se passe 1000 choses financières que personne ne peut tout à fait contrôler.
Alors, on l'a compris, et vous le faites dans votre ouvrage Aude de Kairos, qui s'intitule « Le art contemporain, manipulation et géopolitique ». Vous dénoncez l'art conceptuel en estimant qu'il est une imposture, que ce n'est pas de l'art. Finalement, à quoi sert-il
L'art conceptuel. Alors, il a eu des usages différents à différents moments. Parce que cet art conceptuel, même si c'est toujours le même, et même si finalement il y a une certaine répétition, n'empêche qu'il s'adapte formidablement et que si on le regarde de près, de décennie en décennie, il évolue, il s'adapte. La façon aussi de le présenter, de le vendre, de l'utiliser. Par exemple, disons qu'au début, il ne gagne pas du tout sa vie. C'est les collectionneurs qui l'achètent avant qu'il ne soit exposé et ensuite diffusé un peu partout par un système de galeries amies. Bon, tout ça, c'est le processus du début. Dès les années 70, on multiplie les foires internationales pour que tout se passe dans des foires où ce sont certaines galeries qui choisissent les autres galeries. Donc déjà, il y a une sélection qui se fait.
C'est une cooptation.
Une cooptation, et vous avez le fait que Paris était le centre de l'art, et que si il faut aller sur les foires pour atteindre l'international, alors qu'en France, il suffisait d'être une galerie à Paris pour que l'international vienne à vous, ça y est, il y avait déjà la première coupure et la première prise en main. Mais dès les années 80, visiblement, l'art conceptuel dit contemporain commence à gagner sa vie, puisqu'on spécule pas mal. Seulement, tout s'est effondré du jour au lendemain en 91, y compris l'art conceptuel. Il y avait les deux sur les marchés à l'époque, mais l'art conceptuel était vendu plus cher, et l'art, je dirais, selon sa définition traditionnelle esthétique, était vendu moins cher. Mais en 91, tout s'effondre. Et en 91, s'effondre aussi le système soviétique. Et là, vous allez avoir une mutation qui va se produire. Pendant 2-3 ans, il y a une sorte de plat, de vide. Et tout d'un coup, je pense qu'on passe de la guerre froide culturelle au soft power. L'Amérique se rend compte qu'elle est hégémonique. Bon, par les faits même, et qu'elle va avoir un rôle hégémonique dans le monde. Et qu'évidemment, il faut que la culture, les idées, le divertissement, le cinéma, l'art suivent, une idéologie de ce mondialisme dont ils sont l'état de référence. Alors, évidemment, c'est une idéologie qui s'installe, qui est multiculturaliste. Et ce multiculturalisme, c'est en fait, on va mettre en valeur essentiellement les communautés, les cultures moins importantes, et on va défavoriser les grandes civilisations. Donc, dans les grandes civilisations, il y a évidemment la civilisation occidentale qu'on va essayer de... Enfin, on a déjà commencé d'aplanir. Et puis, on va aussi aplanir des civilisations comme la civilisation chinoise, qui sont une grande civilisation, indienne, si possible, mais pour l'instant, c'est peut-être un des mondes dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'influence. Le monde musulman aussi. Et puis, il y a le monde russe. Et puis, donc ça, c'est des choses qu'on aimerait plutôt aplanir. Mais en revanche, on va mettre en relief peut-être les cultures moins importantes ou qui ont eu moins d'histoire, si on peut dire. Et même, je dirais, on va aussi faire des grandes divisions entre hommes et femmes, entre gens d'un monde ou d'un autre. Et on va jouer les oppositions plutôt que...
Voilà. Alors, on va parler bien sûr de la Chine, de Kéros, de la Russie, de l'Inde, du Japon. Vous évoquiez donc cette banane vendue à 120 000 euros, l'art, un produit monétaire. En quoi est-ce inquiétant ?
C'est-à-dire que tout l'argent... Enfin, moi, là, je parle comme artiste qui ai vécu toute cette époque au jour le jour. Tout l'argent va au même endroit, c'est-à-dire aux produits financiers. C'est assez extraordinaire de voir se vider tout circuit économique autre que le produit financier. Pourquoi ? Parce que il rend d'immenses services, cet art contemporain. Parce que, d'abord, il est un produit très, comment dire, qui change de place sans problème, qui a une grande fluidité par-dessus les frontières, qui, les trois quarts du commerce de l'art contemporain n'est pas visible, c'est-à-dire qu'il est soit sous forme de contrat dans les banques, ou dans le coffre-fort, puisque vous savez que vous pouvez, à partir du moment où vous avez acheté le contrat de la banane, vous n'avez pas besoin de la banane ni du scotch. Vous n'avez pas besoin que l'œuvre soit produite. Par exemple, Jeff Koons a des problèmes parce qu'il n'arrive pas à produire toutes les œuvres, mais il y a beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été produites et chacune est en plusieurs exemplaires, dont on ne sait pas parfois qui les a, où ils sont et combien il y en a.
Une grande opacité, finalement.
Oui, et disons que les services fiscaux américains essayent de mettre un peu d'ordre, parce que ça a été un grand lieu de circulation d'argent qui n'est pas un immense argent. C'est un argent de poche pour gens riches, mais un argent de poche tout de même qui, au moins, ne passe pas dans les radars du fisc, des frontières. Parce que, vous savez, c'est dur, un monde global où on voyage facilement et où les monnaies sont pas les mêmes, où il y a des lois différentes dans chaque pays. Disons que l'argent de poche passe par l'art contemporain. Et puis, il y a la défiscalisation. Et alors là, il y a toutes sortes de possibilités. Et par exemple, si vous êtes une grande fortune française, eh bien, pour que vous êtes pas loin de partir de l'autre côté, que vous avez des enfants, eh bien, acheter une œuvre d'art importante, il faut le faire assez tôt pour pas que ça tombe dans les 3 ans avant. Il faut le faire assez à l'avance. Et ça, c'est un bien qui peut se transmettre d'une façon beaucoup plus aisée, moins fiscalisée que d'autres biens. Alors, évidemment, vous n'allez pas acheter un très beau tableau magnifique d'un très bon peintre qui vendra, et c'est vraiment le haut de la peinture aujourd'hui, dans les 15 000, 20 000 euros. Parce que 15 000, 20 000 euros pour une grande fortune, c'est pas important. Mais si vous achetez vous ne trouverez pas ça dans la peinture française, non, pas dans la peinture, dans l'art conceptuel français, 3 millions, 5 millions... 10 millions, vous ne trouverez pas ça. Donc, il faudra acheter de la peinture américaine ou allemande ou même chinoise.
Géopolitique, nous retrouvons Aude de Kéros après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'art contemporain. Nous retrouvons Aude de Kéros, auteur de Art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle, paru aux éditions Erol. Aude de Kéros, dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur la définition de l'art conceptuel, qui, comme vous le disiez, est un discours plus intellectuel que manuel, finalement.
Sensible.
Alors, quelques mots sur le marché de l'art lui-même. Avec ce chiffre, c'est plus de 60 milliards de dollars, un marché, vous l'avez dit, dominé par les États-Unis, qui ne laisse pas beaucoup de terrain aux Européens et dans lequel...
Si, il y a certains quand même.
Bon, les Allemands.
Et les Anglais.
Et les Anglais. Alors, on en parlera. Mais je disais juste pas beaucoup de terrain, mais du terrain tout de même. Et dans lequel sont apparues ces dernières années de nouvelles régions, à commencer par la Chine, mais pas seulement. D'autres nations de la zone asiatique, d'Amérique latine et d'Afrique participent à la scène artistique mondiale. Les États-Unis, qui pendant plusieurs décennies ont donné le la du marché de l'art. D'ailleurs, vous n'aimez pas le mot, hein, vous préférez le terme de système.
Concernant... Non, c'est-à-dire que ce marché est devenu un système, pour la raison très simple. C'est que quand vous donnez de la valeur à quelque chose qui n'en a pas, en soi. Par exemple, autrefois, une œuvre d'art, ça pouvait être la merveille. Et tout le monde regardait cette œuvre d'art, et c'était une évidence, on n'avait jamais vu ça, que c'était magnifique. Et généralement, il n'y avait pas de problème pour dire simplement c'est beau, et qu'on soit du haut de la société, du bas ou du milieu, il n'y avait pas de problème. Bon. Là, nous avons des œuvres, bon, la banane scotchée, revenons, puisque c'est si simple. Pourquoi 120 000 euros pour une banane scotchée? C'est là où il faut un système pour fabriquer la valeur 120 000 euros. Et le système, il est une chaîne de validation qui se fait, et il faut être passé par-ci, par-ci, par-là. C'est les foires, la maison de vente, les galeries internationales, c'est avoir été acheté par tel collectionneur. C'est ça qui donne la valeur. Et à la fin, la valeur, elle est fabriquée en réseau, par les collectionneurs. Et je dirais que en tête de ce système, il y a les collectionneurs qui collectionnent avant même la mise sur le marché. C'est ça aussi qui a permis la valorisation de l'art conceptuel dès les années 60 et même dès les années 50 avec l'art abstrait américain. C'est-à-dire que les collectionneurs achetaient avant même que les œuvres soient exposées chez Castelli, par exemple, qui était chef d'orchestre de tout ça, qui ensuite les faisait circuler entre l'Amérique et l'Europe, et même le Japon, pendant un ou deux ans, dans des galeries secrètement amies. En deux ans, les médias étant bien traités, vous aviez peu à peu une image d'un artiste, d'une œuvre qui émergeait.
Qui était mondialisée, parce que tous ces réseaux et ces rhizomes mis bout à bout, et donc il y avait une espèce, c'était comme un tsunami finalement, c'était un nom qui tout à coup était partout aux quatre coins du monde.
Et là, ça s'est passé au tournant des années 50, parce que en Europe, vous aviez des artistes, mais il fallait une vie. On émergeait, il fallait 20 ans, 30 ans pour que tout d'un coup un nom émerge, que la valeur monte progressivement, que ce soit tellement recherché que ça devienne rare. Donc ça, c'était le système d'avant. Et le système qui a suivi était un système où la notoriété se faisait en deux ans. Alors, le système suivant, qui commence à bien s'organiser à la fin des années 90, et en particulier avec un événement inouï qui est que les maisons de vente devenues internationales pouvaient entrer dans le premier marché en ayant une section art contemporain où, en un quart d'heure, une cote pouvait passer de zéro à un chiffre important.
Donc elles ont pris, les maisons de vente, le rôle d'une certaine manière des galeries, on est bien d'accord. Juste pour nos éditeurs, afin de comprendre, elles étaient spécialisées dans le deuxième marché. Le deuxième marché, c'est-à-dire que c'est la revente d'une œuvre qui a d'abord été acquise par une personnalité. Et là...
Elles s'occupent des artistes vivants, même d'artistes qui ont 20 ans et qui démarrent. Mais simplement, on ne peut pas comprendre ce que fait la maison de vente si on ne sait pas qu'il y a quand même les collectionneurs derrière qui déjà collectionnent en réseau. Pourquoi ils ont inventé ce système de la collection en réseau qui n'est plus spéculative comme elle l'était dans les années 80 et où d'ailleurs tout s'est effondré en 91, même l'art contemporain.
Mais curieusement, ça ne s'est pas effondré au moment de la crise de 2008.
Voilà, alors pourquoi? Tout simplement parce qu'entre-temps, on a fait une comparaison probable entre le produit dérivé qui se crée au même moment aux produits dérivés financiers qui se créent au même moment, en fin des années 90, où vous allez mettre dans un produit financier des choses un peu différentes, qui s'équilibrent, mais au fond, ce produit financier, c'est plus un concept que quelque chose de vraiment, je dirais, qui correspond à une valeur, une contrepartie matérielle solide et bonne. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer en 2008, quand tout d'un coup, on va s'apercevoir ce qu'est un véritable produit financier et qu'il se dématérialise sous vos yeux et que ce que vous aviez cru être tellement sûr, en fait, n'a pas de matérialité derrière. Mais avec l'ARC, c'était plus facile parce qu'il suffisait d'être d'accord pour acheter ensemble, faire monter ensemble. Et chaque fois que, par exemple, un objet... Prenons le chien de Jeff Koons. Jeff Koons, je crois qu'il est en 5 ou 7 exemplaires, possédé par un nombre équivalent de grands collectionneurs. Alors, on est là dans la très haute collection. Et quand le chien passe à 50 millions d'euros, tous les chiens passent à 50 millions d'euros. Ça devient, c'est un peu comme le cours de l'or, quoi. Et quand vous avez besoin entre vous de vous faire des prêts ou de vous pouvez utiliser cette monnaie d'échange. Quand elle passe à 91 millions, tout le monde bénéficie et on ne vend pas moins. Alors, sauf, on vend plus. Et quand on vend plus, on vend à un nouveau qui va venir dans le club, les gens qui garantissent ces très hauts cotes. Il va payer son pas de porte pour avoir la chance, n'est-ce pas, de déjeuner, dîner, aller au cocktail et simplement de pouvoir demander un service ou peut-être emprunter ou prêter grâce à cela. Mais pour ça, on ne peut pas choisir quelqu'un pour qui ça ne soit pas de l'argent de poche. C'est-à-dire, il faut être, comme on dit, trop important pour tomber. Et donc, on n'est pas obligé de vendre si ça va très mal. Et c'est pour ça qu'en 2008, le marché de l'art ne s'est pas effondré.
Aude de Kéros, les États-Unis, puissance hégémonique sur l'art contemporain, aujourd'hui concurrencée par la Chine, dont le marché de l'art égale ou dépasse selon les années les États-Unis. Je ne sais pas où on en est pour l'année 2018. Comment, rapidement, la Chine perturbe-t-elle l'hégémonie américaine ?
Alors, la Chine perturbe et perturbe pas. Parce que s'il n'y avait pas la Chine, il y aurait beaucoup d'œuvres américaines ou anglo-saxonnes qui ne trouveraient pas autant d'acheteurs. Parce que les Chinois achètent de l'art contemporain. Et les Chinois ont une position très différente des Américains. D'abord, la Chine est passionnée d'art. Il y a une ferveur, une passion qu'en Occident, on n'a plus. Je dirais même... Même les artistes ont une sorte de désillusion. Donc, si vous voulez, il y a ce choc qu'ils ont, et c'est vrai pour la Russie également, et c'est vrai pour les pays totalitaires, et ça commence à être vrai chez nous en France et dans des pays occidentaux. Quand on voit un tel vide, eh bien, tout d'un coup, quand on voit la table rase, et nous la voyons, le scotch, la banane sauce scotchée est une sorte de table rase. Quand nous voyons ça, nous percevons ce que nous avons perdu. Quand on a vu Notre-Dame brûler, la personne la plus insensible ou qui ne regardait plus grand-chose s'est sentie brûlée. Parce que c'est comme si elle brûle, comme si c'était elle-même qui brûlait. Il y a une sorte de reconnaissance d'identité dans la vision d'une œuvre d'art. Et à ce moment-là, on comprend ce qui nous a été enlevé. Donc, il y a ça naturellement dans ces pays-là.
Donc, un grand engouement pour l'art. Je cite quelques chiffres juste parce que c'est des images qui sont parlantes pour nos auditeurs. En 2008, la Chine ne comptait qu'un artiste, Zhang Daguila, au top 100. Il y en a 18 en 2017, je ne sais pas combien en ce début 2020. La Chine compte, dit-on, 1 million d'artistes qui vivent de leur art. Je poursuis, si vous le voulez bien, de Kéros. La Russie, vous l'évoquiez à l'instant, elle n'est pas comme la Chine dans une phase de conquête et de rayonnement. De fait, elle est tenue à l'écart du marché et des grandes circulations de l'art contemporain, en grande partie en raison des sanctions internationales qui pèsent sur elle suite à sa guerre en Ukraine et à l'invasion de la Crimée.
Alors, ce qui est frappant dans ces deux pays qui ont connu le système communiste, c'est que toutes les deux ont fait la même expérience de ce refus de la liberté dans le domaine de l'art. Et ils en comprennent la valeur Et il y a un immense amour de l'art, il y a une ferveur, et vous avez toute une vie artistique. Et en Chine comme en Russie, tous les courants sont là. C'est-à-dire que ils ont repris tous les courants qui tels qu'ils s'étaient arrêtés, je dirais, en 1934, quand Staline a dit « bon, ça sera un art unique », un peu comme on peut dire que nous aurons vécu l'utopie de l'art unique au XXe siècle avec l'art de Staline, et l'art conceptuel, c'est très curieux. L'un dans un monde totalitaire.
L'un était déclaré, et puis l'un était déclaré officiel, oui. L'autre ne l'était pas.
Voilà. Malgré tout, vous avez cette chose invraisemblable d'un art dans un pays totalitaire qui se déclare unique, et dans un monde libéral, un art unique qui est conceptuel. C'est quand même curieux. Là, on commence à réfléchir sur le XXe siècle qui vient de se terminer, et du coup, nous artistes, on s'interroge. Où sommes-nous ? Qui sommes-nous par rapport à ça ? Donc, tout d'un coup, l'expérience chinoise, l'expérience japonaise aussi, russe, est passionnante.
L'expérience japonaise qui est un soft power, que vous qualifiez dans l'ouvrage de soft power indépendant.
Le Japon a très curieusement été un soft power auquel personne ne s'attendait avec les mangas. Et les mangas et tout le divertissement sorti des bandes dessinées, du cinéma d'animation, etc., a envahi le monde entier. À un moment où tout ce qui était industrie électronique se cassait la figure, ils ont trouvé une industrie internationale à partir de ça. Ça a été mal compris. Enfin, la France a beaucoup aimé les mangas, mais la démarche japonaise a été pas très bien comprise parce que c'était aussi une démarche traditionnelle cachée, si on peut dire. Et puis, bon, il y a eu aussi tout ce qu'ils ont essayé de faire pour montrer leur trésor vivant, la modernité de l'art traditionnel avec des merveilles absolues, mais qui n'a pas été reçue en Occident. Et depuis peu d'années, il y a de plus en plus une volonté d'indépendance, d'un soft power indépendant chez les Japonais qui se manifeste de diverses façons.
Quelques mots sur l'Afrique. Une scène artistique qui est plutôt... pour résumer, mieux représenté à l'étranger qu'à l'intérieur du continent.
Et il faut dire que l'Afrique, l'Occident s'y intéresse depuis longtemps, puisqu'on a été fasciné par toute cette production très diverse de l'Afrique. Donc, on s'intéresse à l'art africain enraciné depuis très longtemps et encore aujourd'hui. Vous avez eu une exposition qui a fait un choc, qui a vraiment changé les choses en 89 à Beaubourg sur les magiciens de la Terre. Donc, l'art africain, il y a plusieurs choses. Il y a cet art-là, auquel tout le monde s'intéresse, parce que c'est un art authentique, très différent d'une autre. En général, on aime les différences et les échanges. Mais tout d'un coup, depuis 3-4 ans, l'Afrique est rentrée dans la boucle du système de fabrication de la valeur que j'ai décrit dans le livre. Et vous avez plusieurs Africains qui sont passés au-delà du million et qui sont entrés dans le très haut marché. Alors, ça, c'est un travail de fabrication de produits financiers, évidemment, parce que tout d'un coup, le pétrole au Mali et les diamants en Afrique du Sud sont des sources de biens et il est nécessaire d'avoir cette circulation monétaire dont je parlais qui passe par l'art. Et puis, bon, il y a aussi toute une idéologie du multiculturalisme qui se sert de cela. Mais à ces artistes-là, on demande plutôt qu'ils soient conceptuels et on les choisit parce qu'ils sont conceptuels, ils sont formés à New York, ils sont formés plutôt en Occident, ils exposent en Occident, ils ont du succès dans et des collectionneurs plutôt en Occident. Mais sinon, l'autre art que nous aimons, qui est cet art authentique, et qu'on aimait justement parce qu'on avait perdu cette authenticité parfois en Occident, lui, il a du mal.
La France, Aude de Kéros, oui. On terminera avec elle. La France fait presque exemple atypique dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, avec cette spécificité qui est qu'on ne trouve pas en France ou peu de défense des artistes français. On l'a évoqué en début d'émission, Paris, centre de l'art mondial, les choses sont passées, on traversait l'Atlantique pour atterrir à New York et maintenant peut-être se diffuser davantage en Asie. On fait souvent état des contradictions de la France. D'un côté, peu d'artistes français à l'international et la France qui est aujourd'hui le pays qui exporte le mieux son savoir-faire en matière artistique.
Oui, ben, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Il s'est produit un grand malheur, c'est que au moment même où en Union soviétique le système s'effondrait, puisque vous savez qu'en 91, du jour au lendemain, il n'y a plus eu d'art d'État, alors qu'il n'y avait que l'art d'État. Donc c'était l'État qui faisait la commande, c'était l'État qui entretenait les artistes, qui les formait, etc. Bon. Tout ça tombe d'un jour au lendemain. Imaginez un peu ce qui a pu se passer là-bas pour un artiste qui n'a plus de commanditaire, mais qui n'a pas de galerie non plus. N'empêche que l'art continue, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ne pas avoir un centime, il y aura toujours de l'art. Vous pouvez être menacé de tous les côtés, il y aura toujours de l'art. C'est la leçon du XXe siècle. Mais en France, on a eu une étatisation de l'art qui s'est faite d'une façon extrêmement rapide. En 1983, en quelques mois, une dizaine d'institutions ont été mises sur pied pour diriger l'art et pour le subventionner. Et tout d'un coup, on s'est vu dirigé par des inspecteurs de la création qui se sont créés. En une après-midi, vous avez eu 23 inspecteurs de la création qui sont devenus les directeurs de 23 FRAC en France. C'était Fonds Régional d'Art Contemporain. Et cela, plus le fait qu'ils subventionnent une cinquantaine d'associations qui sont totalement, je dirais, soumises, évidemment. Tout ce monde-là, tous les directeurs de FRAC se rencontrent tous les ans. Tous les directeurs d'associations subventionnées se rencontrent tous les ans à un colloque. Donc il y a non seulement un subventionnement, mais il y a aussi une direction. Et on peut dire qu'à ce moment-là, en France, vous avez eu ce phénomène extrêmement curieux, c'est que peu à peu, on a compris qu'il n'y avait qu'un seul art autorisé, c'était l'art conceptuel. Par exemple, tous ces artistes des années 70, qui avaient été d'ailleurs très politisés, qui faisaient du pop, qui faisaient de la peinture engagée, très, avec beaucoup de sujets, de thèmes, vous aviez une infinité de courants. Tous ces gens-là ont été plutôt mis de côté, parce qu'il fallait pas qu'il puisse y avoir une concurrence au pop américain. Le pop, ça devait être américain et pas français. Or, parfois, le pop français était meilleur que le pop américain. Mais ça, c'est pas grave. On n'en est pas là. On était dans une guerre culturelle. Et ce qui s'est passé de gravissime, c'est que ces fonctionnaires ont défendu les choix de New York. Par exemple, on sait grâce à Alain Quémin qui a fait une étude approfondie de toutes ces choses-là qui sont restées extrêmement obscures jusqu'à une date récente où on commence maintenant à avoir quelques détails sur la façon dont ça s'est passé. Eh bien, ils allaient tous les ans acheter dans des galeries new-yorkaises des artistes vivant et travaillant à New York. Alors qu'ils auraient pu acheter ça dans des galeries françaises.
Alors, Aude de Kerouz, pour terminer, est-ce que le rachat de Sotheby's en juin 2019 par le français Patrick Drahi est un signe avant-coureur d'un passage à autre chose ? C'est-à-dire peut-être un retour de la France
Au stade actuel, je crois que la France ne jouera aucun rôle. Nous avons par exemple le directeur de Christie's, qui est aussi français, comme vous savez. Or, ce n'est pas l'artiste...
François Pinault.
Ce ne sont pas les artistes français qui ont été mis en valeur par Pinault. Donc, ils ne le sont pas non plus, parce que les logiques sont beaucoup plus lourdes que ça. Alors, comment est en train de changer, parce que c'est déjà en cours, le système actuel ? C'est que, malgré tout, même... Alors, l'image de Sotheby's est excellente. C'est la plus grande salle des ventes, qui fait le plus grand chiffre d'affaires, elle est mondiale, etc., mais elle est aussi extraordinairement fragile et toujours en danger, si on peut dire. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une puissance de ce genre qui peut ne pas se remettre d'une mauvaise affaire. Alors, il y a cela, mais il y a surtout le fait que les mentalités changent, que la révolution technologique a changé complètement les rapports des pays entre eux, des artistes avec leur public. On ne passe plus par les institutions aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Et on peut dire même que ça va très, très vite.
Cet Internet serait l'objet...
Oui, une sorte, on se contacte par affinité, pas seulement en France, dans le monde entier. C'est-à-dire que les relations artistiques, en particulier, qui sont plus fluides que les autres, puisque, si vous voulez, l'art est un langage universel. Donc, on communique très facilement, hors du système.
Merci, Aude de Kerouz. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle, paru aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Laurie Plisson. À samedi prochain.